Fuse FM en mode hors les murs. La Radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Samedi 3 septembre 2022, c'est le Forum des associations de Grenoble au Palais des Sports et le Forum des Sports à la Halle Clémenceau. Et l'après-midi se poursuit ici au Palais des Sports où se déroule donc le grand forum de rentrée, forum des associations de la ville de Grenoble. Vous l'avez compris aussi, il y a le forum des sports qui se tient en parallèle à la Halle Clémenceau. Donc n'hésitez pas, c'est jusqu'à 18h pour venir rencontrer toutes ces structures associatives, vous informer et puis pourquoi pas rejoindre l'une ou l'autre au gré de vos envies. Nous enchaînons avec un nouveau plateau, toujours en direct, depuis le hall du Palais des Sports. Nous avons trois associations qui nous ont rejoints et qui vont pouvoir se présenter, nous parler de leurs activités et puis aborder peut-être la question des lieux d'inclusion, les lieux partagés quand les associations font le lien. Nous avons le plaisir d'accueillir Pauline Chaland du collectif Voisin. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Bienvenue parmi nous. Donc le collectif Voisin, effectivement, on était avec vous il n'y a pas très longtemps lors de la grande fête du quartier Bajatière.
Abbaye,
c'est pas loin, hein, Abbaye Bajatière. Mais effectivement, c'est plutôt l'abbaye. Vous nous aviez accueillis dans vos locaux. Pour également une petite journée spéciale, une après-midi spéciale en direct. Alors le collectif Voisin, une association qui a investi des locaux désaffectés de ce secteur du quartier de l'Abbaye.
Tout à fait. En fait, on est au niveau de la cité ouvrière du quartier de l'Abbaye. Et donc c'est des locaux qui nous sont prêtés par la ville de Grenoble pendant ce temps de transition d'urbanisme. Voilà. Et du coup, le collectif Voisin, je le présente.
Bien sûr.
Ouais. Le collectif Voisin, c'est un regroupement d'associations. Enfin, il a toute une histoire en amont, mais moi, je l'ai rejoint. C'était déjà le collectif Voisin. Et donc, du coup, c'est différentes associations qui ont eu le désir de se regrouper pour proposer un lieu et se regrouper autour de valeurs communes. Et donc, au sein du collectif Voisin, il y a une association de réparation de vélos qui s'appelle l'Abbaye Cyclette. Il y a une association d'écoute des familles, de soutien à la parentalité, qui est la Coque d'une étoile. Il y a un espace d'atelier bricolage et d'espace créatif, donc qui est géré par l'association Machin Machine. Il y a également des permanences d'associations qui œuvrent autour du numérique libre, donc qui est Résine et Grésille. Et puis, depuis qu'on a ouvert le lieu, il y a d'autres associations qui proposent des ateliers au sein de nos locaux. Donc on a des associations il y a une association qui propose des ateliers d'écriture. On a également la Pardap qui fait des cours dans nos locaux. Et l'idée de ce lieu, c'est vraiment d'offrir un espace pour que les gens puissent se rencontrer et puis puissent venir partager des ateliers et puissent eux-mêmes également proposer des ateliers au gré de leurs désirs et leurs envies, et dans un désir de partage de savoir-faire et d'échanger ensemble autour de tout un tas de sujets.
Alors, on va y revenir dans quelques instants pour parler un peu plus des avantages et peut-être des inconvénients d'un lieu tel que vous gérez et que vous proposez. Et comme je le disais, en fait, on risque d'être dérangé dans pas longtemps par des discours juste à côté. Donc, on va vite enchaîner avec la présentation des autres associations. Comme ça, chacun aura pu faire un petit peu de promo pour sa structure. Donc, Françoise Ezac est également avec nous pour l'association Cogite. Bonjour Françoise.
Bonjour. Alors Cogite, par contre, c'est une toute petite association qui a commencé par un projet, on va dire, familial, avec une personne autiste qui avait besoin de commencer à prendre son indépendance et qui a commencé à titre expérimental à vivre avec son auxiliaire de vie. Et on a vu que ça lui convenait très très bien, et puis que d'autres jeunes, d'autres adultes autistes aspiraient aussi à prendre leur autonomie mais en étant accompagnée. Donc on a monté l'association il y a maintenant un tout petit peu plus d'un an. Et on a développé ça en centre-ville avec une colocation de 3 personnes et 2 studios, donc où habitent des personnes autistes qui sont accompagnées par leurs animateurs coordinateurs dans le cadre d'un projet de vie partagé qui les aide à s'organiser entre eux, à partager voilà des tas de moments entre eux. Et puis l'idée, c'est de les accompagner vers l'extérieur. Pourquoi pas vers le collectif voisin où je pense qu'ils pourraient trouver des tas de choses qui les intéressent. Donc c'est un projet qu'on a monté de manière expérimentale, pour laquelle on a pu mobiliser des financements aussi pour des postes d'animateurs coordinateurs, mais on a d'autres projets, dont celui d'un habitat pérenne qui serait constitué de 6 studios autour d'espaces partagés, où là chacun puisse vivre chez soi, mais quand il sort de chez soi, il est dans un lieu où il peut partager des moments avec ses collègues, enfin ses cohabitants. Et on a aussi un projet de tiers-lieu artistique et artisanal qui soit ouvert à tous les publics et dans lequel à la fois nos jeunes et d'autres personnes autistes puissent côtoyer d'autres personnes autour avec comme activité support l'art et l'artisanat. Donc voilà, je trouve dans ce que je viens d'entendre aussi des ramifications possibles, d'éventuelles collaborations possibles à terme.
Ah, mais c'est aussi le but hein, du Forum des associations, c'est de permettre aux associations elles-mêmes de se rencontrer, de faire connaissance et ensuite, pourquoi pas, de mettre en place des projets communs. Donc on le voit, l'association Cogite qui déborde d'envie et de projets. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la question de l'autisme, hein, mais il me semble avoir compris qu'il y a différents niveaux, différents types d'autisme.
Différents types, voilà. Et on va éviter la différence de niveau, parce que vous pouvez avoir une personne qui semble très handicapée et qui, par ailleurs, peut être extrêmement performante dans d'autres domaines, et d'autres personnes qui peuvent avoir aussi bien passé un doctorat et être très handicapées pour des choses de la vie de tous les jours. Donc, on va parler de déclinaisons différentes. Là, nos habitants sont des personnes qui ont l'un un autisme, on va dire, classique, avec des difficultés d'expression verbale, mais une grande autonomie pratique. Et puis, aussi bien, d'autres habitants sont des personnes qui, intellectuellement, sont peut-être plus brillantes, mais sont moins autonomes dans la vie de tous les jours, et qui sont bien verbales, bien...
D'accord. Voilà. Et donc, vous nous l'avez dit, c'est pour l'instant un lieu expérimental ?
C'était expérimental, c'était une façon de commencer à avancer sans attendre d'avoir ce projet auquel on aspire, qui existe maintenant à Lyon, qui vient d'ouvrir, qui s'appelle Logited. Donc, cette formule de 6 studios autour d'espaces partagés sur un plateau commun. Ça prend du temps de monter ce genre d'endroit, surtout dans une ville comme Grenoble qui est un peu contrainte sur le plan de l'urbanisme. C'était une façon déjà de permettre à des personnes de commencer à vivre, à prendre leur autonomie, déjà expérimenter la vie collective. Donc là, avec un bailleur privé, mais dans le même immeuble. Donc en voisin.
Ce que vous cherchez, c'est que ce soit en milieu urbain.
Tout à fait. On est dans de l'habitat inclusif. Ça fait partie des critères de l'habitat inclusif, c'est d'avoir accès à tout. Au commerce, à l'offre culturelle, au transport en commun, de manière autonome ou autonome et accompagnée. Donc oui, en milieu urbain. Mmh. Tout à fait.
Notre troisième invité, il s'agit de Pierre Michaud. Bonjour Pierre. Donc vous représentez la PARDAP. Qu'est-ce que c'est la PARDAP ?
Qu'est-ce que c'est que la PARDAP ? On a un sigle un petit peu complexe, mais je vais expliquer très vite ce que c'est. Nous sommes une association d'accueil de migrants. Et notre sigle signifie Association de parrainage républicain des demandeurs d'asile et de protection. Voilà. Alors notre ADN à nous, c'est le parrainage républicain. Et le parrainage républicain, c'est en fait la mise en association étroite entre un Français, une Française et un migrant. Donc le parrain s'engage à apporter une aide, un accompagnement aux migrants. Et on demande aux migrants à s'engager, à respecter, comme on le formule, les valeurs de la République française. Voilà. Donc ça, c'est notre fonds de commerce, si je puis dire. On a commencé cette activité en 2003. On a, alors, ça se traduit par des cérémonies de parrainage qui ont lieu dans des mairies, avec les élus, le maire, avec un certain décorum, on va dire. Et c'est à cette occasion-là que le parrain et le filleul prennent une sorte d'engagement mutuel. Donc c'est assez fort symboliquement, et ça permet de créer des liens qui restent en général forts pendant plusieurs années. Voilà. Alors ça, c'est une activité donc fondatrice. Ensuite, là-dessus, s'est greffé un certain nombre d'activités pour aider nos filleuls, mais aider tous les migrants que l'on reçoit. Les migrants qui viennent chez nous, on les appelle les accueillis. Voilà, comme ça, ils sont tout de suite mis à l'aise. Et notre activité première, ça a été donc de leur apporter une aide, un accompagnement juridique, parce qu'on accompagne beaucoup de demandeurs d'asile qui ont été déboutés, donc dont la demande a été refusée, et qui ensuite vont rester en France, à Grenoble en particulier, et qui n'ont comme solution que d'obtenir un titre de séjour qui sera accordé par la préfecture, si tout va bien. Et donc là, c'est un processus qui est long, et ils ont besoin, bien sûr, d'accompagnement pour obtenir ce genre de documents, qui est un peu le Graal, parce que c'est à partir de ce moment-là où ils vont pouvoir avoir le droit de travailler et ensuite d'avoir une vie normale. Voilà.
Qu'est-ce que ça implique alors de devenir parrain ou marraine? Quelle est l'implication en termes de temps, d'énergie et de les relations qu'on attend de ces Français vis-à-vis de leurs filleuls
Alors c'est très variable. Toujours un peu difficile de répondre à cette question. C'est très variable dans le temps et c'est très variable selon la situation, bien sûr, du migrant. Ce qu'on dit à tous ceux qui viennent nous rejoindre comme parrain-marraine, c'est qu'on ne les lâche pas dans la nature tout seul. On a des bénévoles qui ont une bonne expérience maintenant de tous ces sujets et qui vont pouvoir les aider, en particulier dans les accompagnements administratifs. C'est pas l'essentiel, l'accompagnement administratif, même si c'est très important pour les migrants. L'essentiel, en fait, c'est que le migrant ou la migrante, il ait connaissance, en fait, d'un Français qui soit une sorte de référent. C'est-à-dire qu'il sait que quand il a un problème, il peut l'appeler. Moi, c'est comme ça que je définirais le mieux le parrain ou la marraine. Il peut l'appeler pour lui demander conseil. Il peut l'appeler pour lui dire aussi un peu sa souffrance, dans certains cas. Il peut l'appeler parce que, voilà, il a envie que partager un moment, boire un café, ça peut être des choses relativement simples comme ça. Après, bien entendu, on est dans la relation humaine, hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent qui peuvent être du domaine de l'amitié, qui se développent, et puis dans d'autres cas, pas forcément. Il y a des fois, on va dire, des parrainages qui fonctionnent pas bien, qui peuvent s'arrêter, parce que bon, il peut y avoir, sans parler d'inimitié, ça accroche pas, voilà, ça peut être ça. Et donc, si je prends mon cas personnel, parce que moi, j'ai parrainé trois migrants là jusqu'à maintenant, il y a des périodes intenses où il y a des démarches, de l'accompagnement à faire pour des démarches administratives. Il peut y avoir des périodes où la personne est en situation difficile au niveau de la santé aussi. Puis il y a des périodes où il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'ils attendent et il faut essayer de les aider à lutter contre le désœuvrement. Voilà, donc c'est extrêmement variable. Je ne peux pas vous dire ça va être 2 heures par jour ou 6 heures par semaine, quoi. C'est à la carte. À la carte, puis ça dépend du parrain, de la marraine, si on a envie de s'engager aussi. Voilà. Donc je pense qu'à la base, c'est une motivation pour apporter sa pierre à l'accueil des migrants en France. C'est pas compliqué. On vous propose d'accueillir et d'accompagner une personne, une seule, mais de faire tout ce que vous pouvez pour elle.
Alors c'est intéressant puisque ça permet aussi, via votre association et cette activité de parrainage républicain, de mesurer un peu le degré de solidarité des Français. Alors est-ce que vous trouvez suffisamment de candidats donc de citoyens français qui veulent devenir parrain-marraine, ou est-ce que c'est difficile?
Alors on n'en trouve pas suffisamment. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de demandeurs de candidats migrants pour être filleul que de candidats parrain-marraine. Néanmoins, on en a quand même trouvé donc un peu moins de 1800, parce qu'il y a des gens qui ont parrainé plusieurs fois. On doit être à peu près de l'ordre de 1500 parrains-marraines, enfin, presque sur 20 ans. Hein. Donc en régime, on va dire normal, hors Covid, parce que la période Covid a été complexe, on faisait à peu près une centaine de parrainages par an. Et on arrivait donc à trouver effectivement des parrains-marraines. Les migrants viennent nous voir parce que ça les intéresse bien sûr d'être pris en charge et d'être aidés par un parrain ou une marraine. Et le conseil qu'on leur donne, c'est de leur dire si vous avez des relations avec des Français et des liens d'amitié qui se tissent avec certains, parlez-leur du parrainage et puis essayez de nous les amener pour qu'on leur explique. Et c'est ce qui se passe le mieux en fait. Nous, on trouve quelques parrains, mais en général, c'est les migrants qui nous présentent des parrains marraines.
C'est vrai que s'il y a déjà des liens d'amitié voilà. À la base, oui. ça aide les choses.
C'est ça. Et d'ailleurs, il y a des gens qui arrivent et qui font déjà du parrainage sans le savoir, hein, comme Monsieur Jourdain, comme on dit. Mm-hmm.
Pour revenir sur ces lieux que vous proposez, que ce soit le collectif voisin ou l'association Cogite, donc des lieux qui ont été créés eh bien, pour favoriser une forme d'inclusion sociale, socioculturelle. Pour ce qui est du collectif voisin, Pauline, ça a été facile à mettre en place ou compliqué, parce que la ville a mis à disposition un local. Il y a beaucoup d'associations qui rament pour trouver des locaux. Comment ça s'est passé de votre côté, vu qu'il y avait plusieurs associations? Donc c'est sûr que l'union fait la force, mais voilà, ça s'est fait rapidement, facilement, ou vous avez ramé?
Alors je crois qu'ils ont ramé, je vais dire ils, parce que moi
j'étais pas là depuis le début.
Non, je suis pas là depuis le début. En fait, c'était au départ, c'est un projet qui est né quand il y avait eu l'appel à projet de l'orangerie. Du coup, le bâtiment de la ville de Grenoble. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, qu'ils ont monté ce projet-là. Donc, c'était un projet qui était encore différent, hein, mais. Et du coup, ça fait. Ce projet-là, ça date de 5-6 ans, je pense, quelque chose comme ça. Donc, ils ont déjà construit le projet durant plusieurs années avant de poser leur candidature et avant d'avoir une réponse qui n'a pas été favorable. Et à la suite de ça, du coup, certaines personnes ont souhaité poursuivre le projet. D'autres ont arrêté parce qu'ils étaient fatigués. et du coup, ce projet a été remanié puisque le quartier de l'Abbaye était un quartier tout autre que celui de l'Orangerie. Et du coup, il y avait aussi un montage différent parce qu'au départ, sur le projet de l'Orangerie, il devait y avoir un café associatif qui, pour le coup, sur le quartier de l'Abbaye, il y a déjà un café associatif. Donc du coup, voilà, l'idée, c'était pas du tout de marcher sur les blat-bandes des associations déjà en place. Donc ça s'est reconstruit en lien avec le quartier et en lien avec les bâtiments qui nous ont été proposés. Mais c'est un projet qui a duré, qui a mis du temps à naître. Et qui avance, on est installé, on a fait des travaux de rénovation, enfin en tout cas d'embellissement, mais du coup qui aussi met du temps aussi à se faire connaître.
En tout cas, nous, ce qu'on a pu constater lors de cette fête du quartier, c'est qu'il y a quand même une belle mobilisation entre les différentes structures. Donc ça va, il y a une entente qui est relativement bonne dans l'utilisation, le partage de ce lieu.
Oui. Puis en plus, il y a tout un travail de partenariat qui a été fait avec les structures déjà existantes, hein, la Maison des Habitants, avec la Pirogue, enfin avec déjà toutes les associations en place et qui ont permis aussi de nous faire connaître, enfin en tout cas de pouvoir être complémentaires aussi les uns et les autres avec ce qu'on pouvait proposer sur le quartier. Et du coup, ça se passe bien.
Eh bien, tant mieux. C'est ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite aussi. Françoise, donc sur ces colocations destinées à des personnes autistes et leur permettre de vivre avec une certaine autonomie, c'est un petit peu différent là, puisque oui. en fait, c'est plus un projet immobilier. Alors c'est quoi, vous achetez ou c'est loué Comment ça se passe?
Pas du tout. Actuellement, les habitants sont des locataires tout à fait, on va dire, ordinaires. Ils ont un bail avec le bailleur privé de l'immeuble dans lequel ils habitent.
D'accord.
Ils sont chez eux. Ce que l'association apporte, c'est l'accompagnement au titre de l'accompagnement sous forme d'animation, coordination. Voilà, pour les, accompagner les moments partagés. Là, ils, par exemple, au mois d'août, ils sont partis une semaine en vacances à Chambrousse avec leurs deux animateurs coordinateurs. Le soir, ils se retrouvent pour dîner ensemble, pour se faire des soirées films, pour sortir, se promener, etc. Donc l'association apporte ce volet-là, animation, coordination.
Est-ce que les bailleurs jouent le jeu facilement ? Ils proposent donc des... En tout cas, le lieu hein, qui existe pour l'instant, et vous avez d'autres projets, vous en avez parlé. Est-ce que les bailleurs le voient d'un bon œil ou est-ce qu'ils ont besoin de beaucoup de garanties
Ah ben pour nous, les habitants sont des locataires tout à fait ordinaires aux yeux du bailleur. Donc il faut qu'ils aient un dossier qui tienne la route. C'est la condition pour rentrer là.
Les bailleurs ne font pas un geste particulier pour vous aider
Non. Après, on n'a qu'un bailleur. Ils sont tous dans le même immeuble. Je ne vais pas déflorer l'adresse parce que c'est leur vie privée.
Ils ont des bailleurs sociaux ou
C'est un bailleur privé.
Privé, voilà.
C'est un bailleur privé qui se trouvait avoir différents logements qui ont été en rénovation, etc. Il y a eu une forme de... Vous savez, on tricote à mesure qu'on avance. Comme je vous l'ai dit, on a commencé par un projet tout à fait personnel. On a monté une association. Des logements se sont ouverts. Il y avait des candidats pour venir rejoindre, constituer un petit groupe. Et il se trouvait que des logements étaient en rénovation et ont été disponibles. Et donc, on a tricoté ça. Après, pour l'autre projet, le projet Logited, qu'on veut monter des 6 studios autour d'espaces partagés. Là, on veut travailler avec un bailleur social. Donc, on est en train de faire tourner des bailleurs sociaux. On en a rencontré un qui vraiment s'est montré très ouvert, mais n'avait pas de plateau disponible pour ce genre de projet. Donc, il faut continuer de faire la... C'est pour ça que ça va être un projet de plusieurs années et qu'on préfère déjà, d'un point de vue pragmatique, faire avec ce qu'on a, qui est... C'est peut-être un peu du bricolage, mais on fait avec ce qu'on a avant d'avoir quelque chose de beaucoup plus pérenne, beaucoup plus installé, mais qui va nous mettre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Sachant qu'il y a des choses qui vont beaucoup plus vite aujourd'hui parce que c'est entré dans les mœurs auprès des pouvoirs publics, veulent promouvoir l'habitat partagé inclusif pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap. Et là où il y a eu des projets d'habitat partagé qui sont montés en France, en tout cas dans le domaine de l'autisme, c'est... dernières années, mais c'était vraiment des pincées avec des parents et surtout des mères d'ailleurs héroïques qui ont développé des expertises pour décoder ce qui pouvait exister à droite à gauche, que les pouvoirs publics n'arrivaient pas à tricoter ensemble. Et donc il y a des choses à force de défricher, de labourer, on réussit à faire émerger quelques projets, mais vraiment. Peut-être une dizaine en France ces 6 dernières années, mais là maintenant on arrive à être dans une période beaucoup plus féconde, puisque avec cette notion d'accompagnement financé par l'Agence régionale de santé, puis à partir de janvier le département, ça rentre dans les mœurs d'accompagner les parents, les personnes dans le cadre de ce genre d'habitat inclusif pour favoriser le vivre ensemble et l'accès à tout pour ces personnes. Voilà, comme alternative aux foyers qui souvent ne conviennent pas pour les personnes autistes.
Une dernière question peut-être par rapport à l'association Cogite. Est-ce que c'est réservé à des parents d'enfants autistes ou est-ce que n'importe quel citoyen peut venir apporter aussi sa contribution ? Est-ce que vous avez besoin de renforts ?
Ah oui, tout à fait.
Et là, n'importe qui ?
Ah ben n'importe qui, il faut se rencontrer, voilà.
Bien sûr, non, mais j'entends pas forcément des gens qui ont un lien avec...
Comme je vous disais, l'association n'existe que depuis un an. Là, on a 2 nouveaux habitants qui sont arrivés au printemps. On tricote, on tisse au fur et à mesure. On a envie d'élargir le cercle relationnel de... des habitants, à travers les associations existantes, à travers des amitiés qui peuvent se tisser. On a besoin de coups de main sur le plan aussi administratif, parce que c'est vrai que les dossiers à rédiger, etc., ça demande énormément de travail. Les subventions à mobiliser, ça demande énormément de travail. Donc, il y a différentes manières de nous aider en nous rejoignant. Mais pour ça, il faut se rencontrer, il faut discuter, il faut... faire connaître mieux les projets, les besoins, etc.
D'accord. Et voilà. Alors pour vous contacter ?
Alors, on a une adresse mail. On n'a pas encore de site internet. Encore une fois, on est une toute petite association. On a une adresse mail. C'est asso, comme association, asso.cogite@gmail.com. On a aussi une petite page Facebook qui s'appelle Association Cogite. Donc, on peut nous trouver d'une manière ou d'une autre.
Très bien.
Si on est motivé.
Pour terminer, juste revenir peut-être sur le lien qu'il y a entre le collectif voisin et la Pardap, puisque Pauline, au tout début, tu nous as dit la Pardap vient aussi parfois, voilà, il y a des rendez-vous réguliers. Alors, quelle est la nature de ce lien? Parce qu'effectivement, il y a des personnes migrantes hein, qui habitent aussi juste à côté de chez vous.
Alors, il y a une autre association, ouais, une association qui fait de l'hébergement, voilà. Du coup, pour les personnes migrantes.
Et c'est dans ce cadre-là que la Pardap...
Oui, je peux ouais, compléter. Ouais. Parce que justement, on est voisins, effectivement. Mm. Alors, c'est une c'est un collectif, c'est l'interassociatif. On a monté ce qu'on appelle l'Abri Jeune. Donc, qui est situé donc à côté de vous, voilà. Où on a permis donc, enfin quand je dis nous, c'est la ville et également la communauté de communes, nous a mis à disposition un immeuble qui, bon, pendant, enfin, a priori c'est parti pour 3 ans, qui nous permet d'héberger 24 migrants. Puisque l'hébergement, c'est quand même un des problèmes majeurs. J'en ai pas parlé tout à l'heure. Mais c'est donc à cette occasion-là qu'on a pu faire un travail d'hébergement. J'ai pas parlé d'hébergement. On a aujourd'hui donc toute une activité sur ce sujet-là. Je pense qu'aujourd'hui, on doit tourner à peu près hors l'Abri Jeune à une centaine de migrants hébergés qui sont essentiellement des familles. Parce que le problème est quand même le plus pointu quand il y a des enfants.
Très bien. On rappelle donc, pour prendre contact...
Parce que je voulais parler d'un lieu particulier, puisque c'était un peu la thématique là, qui était annoncée, et d'un autre volet de notre activité qui concerne l'insertion. Donc ça a un petit lien aussi avec l'association Cogite. La difficulté donc des migrants, outre donc comme je l'ai indiqué, le fait qu'ils n'ont pas le droit de travailler et le fait qu'ils ont bien entendu des difficultés d'hébergement, le gros problème c'est le désœuvrement pour beaucoup, alors que c'est des jeunes qui ont envie de faire plein de choses. Donc nous avons un lieu qui s'appelle la Maison des Accueillis, qui se trouve près de la place Saint-Bruno, en face de la maison des habitants Chaurier-Berria. C'est un lieu qui a été mis à disposition par la mairie de Grenoble, que l'on remercie. On est 4 associations dans ce lieu et l'objectif, c'est tous les après-midi, on fait porte ouverte, ce qui permet donc à des jeunes migrants, un petit peu désœuvrés, de venir soit suivre des cours de français, d'informatique, soit simplement venir se poser, boire un café. On propose des jeux de société, on propose un atelier d'écriture, on propose le café des femmes, parce que les femmes aiment se retrouver un peu ensemble. Enfin bref, il y a un certain nombre d'activités. Et donc j'en profite vraiment pour dire que tous les migrants qui ont besoin de rencontrer des gens, ça peut être d'autres migrants, mais ça peut être bien sûr aussi des Français, puisque dans ce lieu, on a une animation qui est assurée par les services civiques et des bénévoles. Donc ce lieu est ouvert. Je vais donner l'adresse précise. Donc c'est 52 rue Abbé Grégoire à Grenoble. Et c'est ouvert tous les après-midi de la semaine, pas le week-end. Voilà.
Et ben voilà, comme quoi la Pardap aussi est directement concernée par un lieu d'inclusion, parce que c'est vrai qu'au début, j'avais pas compris. Vous me disiez, est-ce qu'on peut aborder d'autres sujets? Ah bah alors la Pardap, ils n'ont pas vraiment un lieu. Mais si, bien sûr. Alors, donc Françoise, vous nous avez donné un contact pour Cogite. Pierre, vous venez à l'instant de donner aussi l'adresse de ce lieu. Et puis on rappelle donc pour contacter éventuellement, parce que je posais la question à Françoise et à Pierre s'ils avaient besoin de renfort. Est-ce que le collectif voisin cherche aussi un peu de nouvelles énergies ou est-ce que vous êtes assez nombreux?
Non, on est en recherche de bénévoles, ouais, pour pouvoir, parce que là, jusqu'à présent, on fait des permanences d'ouverture du lieu, mais qui n'est pas ouvert tout le temps, parce qu'on n'a pas la possibilité de, justement, qu'il y ait assez de bénévoles pour assurer ces permanences. Donc on est en recherche de personnes qui souhaiteraient nous rejoindre. Et donc, alors moi, ce que je peux vous donner, alors je ne sais pas encore s'il est en cours de construction, le site internet. Donc c'est www.collectivevoisin.org.
Tout simplement.
Voilà,
pour retrouver les informations. Et puis sinon, si on veut passer vous voir, franchir la porte.
C'est le 9 et 11 Place Charpin.
Parfait, dans le quartier donc de l'Abbaye. Merci à tous les trois. Bonne
merci
continuation dans vos activités. Donc on entend qu'il y a du remue-ménage à côté. C'est parce que le moment des annonces, des résultats du budget participatif, les projets lauréats, ça va se faire dans quelques instants. Normalement, on devrait avoir un dernier plateau d'ici une petite demi-heure où l'un des responsables, peut-être un élu, peut-être le maire lui-même, ou bien le chargé de projet Boris Koïtchev, du budget participatif, quelqu'un en tout cas devrait venir aussi nous annoncer ces fameux projets lauréats qui vont embellir un quartier ou carrément toute la ville de Grenoble. Donc de toute façon, nous on vous donne rendez-vous d'ici une petite demi-heure pour un dernier plateau de clôture dans le cadre de cette journée spéciale depuis le forum des associations au Palais des Sports de Grenoble. Voilà, merci à tous les trois, à bientôt.
Merci.
Au plaisir de vous recroiser sur l'antenne de News et c'est reparti pour un peu de musique sur le 101.2. News FM en mode hors les murs. La radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Samedi 3 septembre 2022, c'est le Forum des associations de Grenoble au Palais des Sports et le Forum des Sports à la Halle Clémenceau.